Je voudrais commencer avec un petit paragraphe de Monsieur MacArthur qui dit comme ça, et je vous demande après d'identifier qui parle d'elle-même. Je suis plus mortel que l'obus strident de l'obusier. Je gagne sans tuer. Je détruis des foyers, je brise des cœurs et je saccage des vies. Je me déplace sur les ailes du vent. Aucune innocence n'est assez forte pour m'intimider. Aucune pureté assez pure pour me démonter. Je ne fais aucun cas de la vérité. Je ne respecte pas la justice ni la miséricorde pour ceux qui sont sans défense. Mes victimes sont aussi nombreuses que le sable de la mer et souvent aussi innocentes. Je n'oublie jamais et je pardonne rarement. Je m'appelle Commérage. Le commérage qui fait des ravages. Parce que pourquoi est-ce que je commence avec ce paragraphe-là? Parce qu'aujourd'hui, mais j'ai mis un thème au cours de ce matin, un petit mais indomptable instrument, la langue. Hein? C'est sûr qu'on dirait, est-ce que c'est vrai que c'est la langue? Jacques va cibler comme l'instrument méchant que c'est la langue. Et c'est vrai. C'est vrai d'une certaine façon, sauf que c'est quoi qui domine mes membres? C'est quoi qui me fait agir d'une ou autre manière? C'est le cas. Mais c'est sûr que la conclusion, c'est, je pense, en tout cas pour moi, mais on va commencer pour aller dans l'ordre, en pensant, pourquoi est-ce que vous pensez, Jacques, il met l'emphase que c'est la langue qui est méchante dans le corps? Petit membre dans le corps, mais qui est tellement méchant et qui fait tellement du mal, qui va affecter parfois des sociétés entières, la langue. Directement, parfois, une personne ou un groupe dans notre entourage. Combien de fois, je ne sais pas si vous avez eu une mauvaise expérience, on a dit une chose irréfléchie qui a fait du mal à quelqu'un, sans le vouloir même. Hein, on a déjà dit des choses. Parfois, ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement blessantes comme telles, mais quand même indiscrètes. Je ne sais pas si je vous ai raconté. Je parlais avec une sœur de l'église, une jeune sœur, mettons, dans le sens qu'elle était, elle avait quoi, trentaine d'années peut-être. Puis on parlait ce jour-là parce que je connaissais sa sœur, puis on avait travaillé ensemble avec sa sœur. Puis on a commencé à parler, puis elle m'a raconté que son père était pour venir, qu'on lui avait accordé la visa pour qu'elle vienne visiter la famille, elle, sa sœur, puis qu'elle était contente et que son père venait. Ouais, j'étais content, j'ai dit, oh, c'est bon, puis j'espère qu'on va le connaître. Son père n'était pas croyant. Puis, il s'est passé le temps, avec à peu près 3 semaines ou un mois après, elle arrive avec un monsieur assez âgé, très âgé, je dirais même. Elle, dans la trentaine, peut-être, elle était entre 30 et 35 ans. Puis, elle arrive avec un monsieur, moi, je calcule, à 70 ans, à peu près. Puis, je viens, tout content. « Oh, votre papa est arrivé! » Puis, elle me regarde, elle sourit. Monsieur, il reste sans rien dire. Puis, elle me dit, oui, parce que mon époux est comme mon papa, mon ami. Elle a essayé d'arranger les choses. Et moi, j'étais, voyez-vous que je suis un petit peu foncé, mais je changeais de couleur. Là. J'étais mauve, rouge, n'importe quel. Vous savez, la langue. Si moi, j'avais simplement réfléchi et attendre qu'elle vienne pour me présenter, peut-être elle m'aurait dit, regarde, je te présente mon mari. Et ça, c'était différent. Mais sans penser, on fait des choses indiscrètes parce qu'on parle d'une façon irréfléchie parfois. Ce n'est pas nécessairement qu'il y a la méchanceté dedans, derrière ce qu'on fait, mais il faut quand même. Hein? Quand la parole parle d'être contrôlé, la parole dit contrôlé dans tous les sens, hein? Pas juste dans un domaine. On doit être sage, et puis on a la mise à le faire. Puis parfois, c'est des choses pires que ça. Parfois, on fait des choses, on dit des choses qui sont plus blessantes que d'autres, des choses qui sont plus sérieuses que d'autres. Alors, il faut faire bien attention. Je crois que c'est vrai que la parole, et Jacques fait attention très spécifique pour la langue. Il paraît que Jacques n'est pas en train juste d'imaginer des choses ou d'avertir l'Église qu'il ne fasse pas ces erreurs-là. Je pense que Jacques a vu certaines choses qui se sont passées à l'Église et il essaye de corriger ces choses-là. Il essaye de mettre en garde l'Église pour que ça ne continue pas. Est-ce que si on pense ces choses-là, ça ne se passe pas ici? Je ne sais pas. J'espère que non. J'espère que non. Mais il y a deux parties. Celui qui vient avec le message et celui qui le reçoit. Alors, est-ce qu'on a le caractère aussi quand quelqu'un arrive avec une scène nouvelle piquante, est-ce qu'on a le caractère de dire aussi, excuse-moi mon frère, si ce n'est pas édifiant, je préfère ne pas que tu ne partages pas ce point-là. Parce qu'on doit aussi. Ça passe dans les deux sens. Ou est-ce qu'on est, oh là là, oui, oui, mon frère, dis-moi, moi, je vais te raconter à toi parce que j'ai confiance, tu es mon frère. Alors, je participe aussi dans ce sens-là. On va lire le texte biblique avant d'aller plus loin. Jacques 3, le verset 1 au verset 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Là, le Seigneur m'a parlé directement à moi. On doit être certain qu'on sera jugé plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alors, Jacques vient pour mettre l'emphase sur le petit organe qui est la langue. Et il fait un appel d'attention à l'église juive de ce jour-là. Et avec Pasteur Dom, on a vu dimanche passé qu'il parlait de quoi? La foi sans les œuvres. Et il dit, Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par les œuvres. Parce que la foi, il dit, Jacques, sans les œuvres est une foi morte. Et c'est vrai. Si on dit qu'on est croyant et ailleurs, je fais les mêmes choses que n'importe qui, je parle pareil que n'importe qui, est-ce que quelqu'un dirait, Maurice est vraiment un chrétien? Je vais passer inaperçu. Parfois, je sens le rejet dans mon entourage de travail. On ressent ce rejet-là. Par exemple, pour la gloire de Dieu, je peux dire, ils ne m'ont jamais écouté dire un mauvais mot. Le traditionnel mot en français. J'essaye, en tout cas, dans les choses de base, de ne pas rendre un mauvais témoignage. Je prie tout le temps quand je mange. N'importe qui est là. Si c'est mon patron, si ce sont mes collègues de travail, je prie pour les aliments que le Seigneur me donne. Par exemple, quand on a une réunion, je travaille pour la ville de Hampstead. C'est une petite ville juive à l'ouest de Montréal. L'été, par exemple, ils font un barbecue pour les employés. Et on est tous réunis dans le parc de la ville. Moi, je prie. Je n'ai pas honte de prier. Mais c'est sûr qu'on ne fait pas un gros spectacle non plus. Et toutes les choses dans le bon sens. Mais je sais que je suis mal vu. Et moi, je sens parfois que je suis à l'extérieur du cercle. Hein. Il y a un collègue de travail même qui, pendant un certain temps, sans que je puisse avoir fait quelque chose de mauvais contre lui, il ne me parlait pas. Il était presque comme mon ennemi. Il me voyait mal. Il se croisait avec moi. Et je lui parlais, il ne me répondait pas. Maintenant, il a commencé à changer un peu. Il me parle, mais pourquoi? Je me demande. Moi, je me sens mal à l'aise. C'est sûr que quand je suis dans la situation, je me sens mal à l'aise. Mais le Seigneur me rappelle. Pourquoi tu regrettes ne pas être accepté parmi ceux du monde? Quand le croyant est bien accepté avec tout le monde, ben, il y a deux choses. C'est parce qu'il est sympathique, puis malgré qu'il s'est montré comme chrétien, il est accepté. Gloire à Dieu si c'est comme ça. Mais moi, je m'inquiète. Quand un croyant dit qu'il va tellement bien dans l'entourage non chrétien, parce que le monde va vous haïr. Vous serez haï du monde, parce que vous n'êtes pas du monde. Alors, si on essaye toujours d'agir d'une certaine façon, et selon les principes bibliques, on sera mal vu. Hein? On n'est pas dans l'ensemble. On va contre-courant, mes frères. Et la langue, selon les cours de ce matin, c'est l'organe qui va contaminer tout le corps. C'est ça que dit Jacques. Les époques ont changé, les contextes changent, mais l'homme n'a pas changé. Le corps de l'homme reste pareil du début de la création jusqu'à nos jours. Toutes les choses ont changé à son entourage. Le corps de l'homme reste pareil. Nous allons voir Proverbes, le chapitre 10. Le livre de Proverbes montre aux croyants de l'Ancien Testament, et à nous aussi, bien entendu, la façon d'utiliser la langue. Le but pour lequel Dieu l'a donnée, pour lui glorifier, et qu'en même temps, elle soit un objet pour le bien et l'harmonie des croyants. C'est ça le but pour lequel Dieu a donné à l'homme la capacité de parler, la langue. Le chapitre 10 de Proverbes explique certaines caractéristiques par rapport à la langue que nous avons tous le devoir de chercher constamment. Premièrement, dans la première partie du verset 11, il dit « La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. » Premier contraste. Hein? La bouche du juste est une source de vie. À quoi il fait référence quand il parle d'une source de vie? Est-ce qu'on peut se servir de l'Ancien Testament pour avoir des principes de la vie chrétienne? Bien sûr. Parce que j'ai déjà trouvé des personnes, des chrétiens qui disent « Oh non, on doit se servir uniquement parce qu'on est dans le temps de l'Église que du Nouveau Testament. » Mais non. Faisons la différence. Dans l'Ancien Testament, oui, il y a deux lois. La loi sacerdotale, qu'on pourrait dire, les principes de la loi de Moïse pour venir et puis plaire à Dieu, qui sont déjà, on n'est pas assujetti à ces lois-là, parce qu'en Christ, on est libre de la loi. Mais la loi morale, elle est bonne. Comme Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est utile pour corriger, pour enseigner, afin que l'homme de Dieu soit parfait. Alors, quand il dit toute écriture, dans la tête de Paul, n'est pas juste le Nouveau Testament, il pense au Genèse 1 jusqu'à. Mais il parle plutôt, peut-être qu'il fait référence à l'Ancien Testament, plus qu'à l'époque dont il était, parce que ce n'était pas tous les épîtres encore écrites. Mais il parle à tout l'Ancien Testament. Alors, juste pour faire la nuance, là. Alors la bouche du juste est une source de vie. Si on compare avec Romains 3, 13, 14.
Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume.
De qui parle Paul là? Ceux qui sont sous l'emprise du péché? En quoi ou par quoi on est influencé? On est influencé par l'esprit. Notre bouche, notre langue parlera des choses bonnes, des choses de vie. On est influencé par le péché. Notre bouche, notre langue parlera en conséquence. Si on continue, voyons un proverbe. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. C'est le 10, verset 13. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Encore une fois, ici, ils ont utilisé les lèvres, mais fait référence toujours au fait de la parole, au fait de parler. Et même si on a des lèvres, mais si on n'a pas une langue, on ne serait pas capable de parler. Le 10, 19, la deuxième partie du verset 19, celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Qu'est-ce qu'on a vu avant avec Jacques dans les cours passés? C'est quoi l'attitude avec laquelle on doit venir pour apprendre, pour étudier la parole du Seigneur, lent à parler, prompt à écouter. En tout cas, moi, j'ai la misère, mes frères. Je suis trop prompt à parler. La parole me parle de me retenir, que je dois y réfléchir avant de parler. Mais moi, un de mes défauts, je vous disais, je me souviens bien, c'est de trop parler, de parler trop vite. Hein? Parfois, avec ma chère femme, pourquoi on a des petites chicanes? Parce que je parle trop vite. Je dois accepter mes fautes, mes torts. Parce que c'est vrai. C'est un de mes défauts. Je prie et je vais contre ça. Seigneur, aide-moi. Et le livre de Jacques, il m'a frappé premièrement à moi, mes frères. S'il vous parle d'une certaine façon à vous directement sur certaines choses de votre vie personnelle, soyez certains que moi, il m'a déjà parlé à moi, il m'a déjà frappé à moi la parole. Parce que le premier qui est confronté devant la parole, c'est nous. Quand nous préparons les cours, chacun de nous, si on étudie la parole, mais quand on parle des choses tellement pratiques, une chose très intéressante de Jacques, c'est que Jacques va parler des choses très pratiques, de la vie courante. Et il va pas trop spiritualiser les choses. Hein. Il vient parler, vous devez faire comme ceci, vous ne devez pas faire cela, vous devez agir comme, si, comme ça. Puis il est très direct dans, dans le sens de la vie pratique. Alors, celui qui retient ses lèvres est un homme prudent, encore, dans le chapitre 10, 19. La langue du juste est un argent de choix. Qu'est-ce que ça veut dire, est un argent de choix? Qu'est-ce que ça veut dire la, l'expression? Le métal, hein? Oui, parce que je pensais, et vraiment je vous dis, quand il dit dans le verset 20, la langue du juste est un argent de choix. Oui, je crois qu'il parle de la qualité, hein, de l'argent. Quand il dit c'est un argent de choix, ça veut dire que le métal, quand trouvé d'une façon naturelle, oui, il n'est pas encore raffiné. Et puis là, le texte nous parle qu'on choisit le meilleur. C'est ça l'idée de Proverbe 10. Quand il dit la langue du juste est un argent de choix, ça veut dire ce n'est pas trouvé couramment. Ce n'est pas ordinaire de trouver ces qualités de métal. C'est bien recherché, bien choisi. Dans le temps du Seigneur Jésus-Christ, quand le monde rencontrait Jésus-Christ, ça doit être frappant, non? Parce que les paroles du Seigneur étaient vraiment comme ça, comme le métal, comme l'argent choisi. Parce que lui parlait vraiment, ses paroles étaient toujours bien dites, toujours bien dirigées, toujours dans sa place, sagement. Il savait parler à chaque personne. Comment impressionnant le monde qui rencontrait le Seigneur et l'écoutait parler.
Jamais homme n'a parlé comme cet homme.
Oui, oui. Puis la sagesse est tout le temps parole à sa place et bien dirigée dans le moment précis. Nous devons apprendre ça. L'élève du juste dirige beaucoup d'hommes dans le 21a. L'élève du juste dirige beaucoup d'hommes et les insensés meurent par défaut de raison. Mais là, ça me fait penser, l'élève du juste dirige beaucoup d'hommes. C'est la parole de Dieu qui dit ça, hein? C'est pas moi. Qu'est-ce que ça veut dire? L'élève du juste dirige beaucoup d'hommes. À quoi on pourrait faire appel avec cette phrase-là? Si quelqu'un est sage, il parle toujours de cohérent, il parle des choses qui sont sages, bien on est prêt à l'écouter. D'une certaine façon, il est en train de diriger, de prendre le leadership, parce qu'on sait que telle personne, quand il parle vraiment des choses sensées. Inconsciemment, il est en train de diriger le monde, parce que le monde est tenté à l'écouter. Hein? Malgré, disons, même encore l'exemple de Jésus, dans son époque, quand il parlait, le monde aimait l'écouter. En même temps, il disait, Dieu, cette parole, qui pourra la comprendre? Hein? Parce que Jésus-Christ parler exactement les choses que Dieu demande de l'homme pour s'approcher de Dieu. Quelles choses que l'homme devait délaisser pour être agréable aux yeux de Dieu. 10:31, la bouche du juste produit la sagesse. La bouche du juste produit la sagesse. Encore une fois, ce n'est pas la bouche qui produit la sagesse dans le sens littéral, hein, mais celui qui cherche les bonnes choses, qui cherche la parole toujours, qui cherche à agréer Dieu, il va parler conséquemment. Il va parler des choses qui sont vraiment sages. Et dans le verset 32, les lèvres du juste connaissent la grâce. Ça, je l'aime beaucoup. Mais j'aime tous, mais les lèvres du juste connaissent la grâce et la bouche des méchants, la perversité. Il y a toujours un contraste, hein, entre ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est bon et ce qui est méchant. Alors, les lèvres du juste connaissent la grâce. Qui est le juste? Ceux qui sont sauvés. Êtes-vous juste? Oui. Il ne faut pas avoir peur de dire, oui, je suis injuste, pas par mes mérites à moi, mais parce que le Seigneur m'a justifié. Je sais que ça frappe, par exemple, les inconvertis. On m'a déjà posé la question. Et toi, tu es saint? Parce que Dieu m'a sanctifié. Parce qu'il a le pouvoir de me sanctifier.
Je pense que qu'est-ce que Jacques veut nous enseigner de plus, c'est de maîtriser cette langue-là. De maîtriser nos émotions nous pousse à dire ces choses-là. Job parle beaucoup de la maîtrise.
Oui, de soi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Et puis la langue parle conséquemment à la maîtrise que nous avons de nous. Hein? Je ne maîtrise pas mes émotions. Mais en fait, vous savez, ça fait longtemps que j'ai lu un livre qui s'appelle... c'était en espagnol. Il conseillait plein de choses très utiles que j'ai retenues. La maturité... on l'atteint quand on a avancé dans le sens de maîtriser nos émotions. Quand on n'a pas du contrôle dans les émotions, c'est là qu'on fait des fautes. Quand on contrôle mal nos émotions, on a tendance à mal agir aussi, à mal décider, prendre des mauvaises décisions à cause des émotions. Une jeune fille peut tomber enceinte. Ça arrive souvent, malheureusement. À cause des émotions, se passe tellement de choses qui ne sont pas les meilleures parce qu'on n'est pas tout simplement en contrôle de nos émotions. On manque de maturité. Et là, ça nous touche, je crois, tous. Moi, le premier, c'est difficile parfois de contrôler nos émotions. Dans le sens de la colère, par exemple. Comment maîtriser la colère? Comment ne pas parler d'une façon blessante quand quelqu'un nous a dit une chose qui nous a blessé? C'est quoi la réaction normale? Si quelqu'un me dit quelque chose, et c'est pour ça que Jacques nous parle, parce qu'il veut qu'on réfléchisse, puis corriger. Si on revient à Jacques, il commence en disant, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Il semble que, comme Jacques est dans un contexte chrétien mais juif, il a en tête plutôt des chrétiens juifs. C'est comme si dans l'église chrétienne, les juifs voulaient encore maintenir l'habitude de la synagogue juive. Parce que dans la synagogue juive, vous savez que les juifs, à l'âge de 13 ans, les hommes, ils font le bar mitzvah. Et ça veut dire qu'ils sont les enfants, ils deviennent enfants de la loi, ils disent. À partir de cet âge-là, l'enfant a le droit de participer activement dans la synagogue. Il a le droit de même de passer devant l'assemblée et lire des versets. Pas nécessairement un rabbin qui fait ça dans la synagogue juive. C'était l'habitude. Vous savez, par exemple, Jésus-Christ n'était pas un rabbin reconnu comme dans le titre officiel en Israël. Mais Jésus, souvent, il est venu pour lire certains versets de la parole. Ainsi, d'autres hommes, ceux qui voulaient passer pour lire un passage de la parole, ils passaient puis ils pouvaient le faire. C'est l'habitude. Il paraît qu'il y avait des juifs qui voulaient faire la même chose dans l'église chrétienne. Ils voulaient passer, lire un passage de la parole, pas seulement le lire, mais vouloir enseigner. Et je crois que peut-être qu'il était en train de déraper dans le sens qu'il voulait enseigner encore selon la loi. Jacques ne le dit pas, c'est juste une réflexion personnelle, mienne. Mais quand il fait un appel d'attention, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Quand il parle d'enseigner, ce n'est pas seulement lire la parole. Enseigner, c'est une chose différente. Expliquer la parole. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Alors il fait un appel aux hommes de ne pas vouloir tout le monde enseigner parce que nous serons jugés. Alors c'est la première chose. Il commence avec cette verset-là. Il ne veut pas que le monde commence à prendre l'enseignement de la parole à la légère. Parfois, les pharisiens pouvaient passer dans une synagogue et juste pour se faire voir de toute l'assemblée. Pour commencer, ce n'est pas tout le monde qui savait lire à l'époque de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde qui... Alors, quand quelqu'un passait pour lire, ça veut dire qu'on commençait déjà à penser « Oh, c'est un intellectuel ». C'est comme s'il y a toute une panoplie de mauvaises attitudes quand il passait devant pour enseigner. Pas seulement la parole, mais l'attitude déjà est méchante. Ce n'est pas une attitude humble, ce n'est pas avec l'humilité qu'il passait, mais pour se vanter peut-être. Alors Jacques, il dit, non, il faut faire attention, parce que pas seulement l'attitude sera jugée sévèrement, mais ce que tu dis est plus difficile, parce que moi, je pourrais commettre une faute en parlant d'une mauvaise façon à quelqu'un. Mais quand je me mets à parler ou enseigner de mauvaises choses qui ont un rapport direct avec la parole, même si on ne le voit pas tout de suite, mais c'est plus grave, ça s'appelle doctrine, ça s'appelle... Dieu qui a parlé. Alors si moi je me mets à enseigner autre chose que la parole, je suis sous le jugement, pas seulement de ceux qui m'écoutent, mais de Dieu lui-même. Parce que Dieu est zélé de sa parole. Il ne va pas tolérer que quelqu'un vienne juste pour parler et dire des choses qui vont à l'encontre de sa doctrine, de sa parole. C'est très sérieux. Alors Jacques, c'est la première chose qu'il veut faire. Il faut que nous soyons conscients que nous serons jugés si on agit d'une mauvaise façon ou si on dit des choses qui ne vont pas avec l'accord de Dieu. Jacques commence avec une mise en garde, bien sûr, un danger. Tout le monde veut être un maître. Mais la langue est un instrument qui révèle l'état de notre maturité. La langue est un instrument qui révèle l'état de notre maturité. Si je suis immature, je ne peux pas parler d'une façon mature, c'est logique. Et connaissance en même temps. Si on va voir 1 Timothée 1, verset 3 au verset 7.
Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, garés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment.
Ah, voilà, c'est par rapport à ce que je disais tantôt, l'appel que Jacques fait à ceux qui voulaient enseigner. Paul est en train de dire à Timothée, fais attention. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. On ne peut pas donner la parole à n'importe qui. Gloire à Dieu pour notre Église qui fait toujours attention à ce qui se met devant l'Assemblée. Et moi, je suis qu'on a une Église scellée pour ceux qui se mettent à enseigner, qui se mettent devant l'Assemblée. La langue est un instrument qui révèle la fermeté de notre foi. De quelle façon je suis affirmé dans la parole de Dieu, dans la doctrine biblique. Celui qui prétend être religieux, saint et avec foi, doit le démontrer avec sa langue aussi, avec ses agissements. Dans 1 Timothée 4, 16, la parole dit, « Veille sur toi-même, c'est Paul qui parle à Timothée encore, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Alors, veille sur toi-même et sur ton enseignement, sur la doctrine, dit d'autres versions. Et dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. La façon dont je parle, la langue est un instrument qui révèle l'état de notre maturité, mais aussi la fermeté de notre foi. Comment je suis vraiment clair dans ce que je crois? Comment je suis clair dans ce que je dis? Dans la façon dont je me dirige à mes frères. Parce que moi, par exemple, est-ce que j'aurais l'autorité de venir parler à un frère, l'exhorter parce que mon frère, est-ce que tu es fidèle, juste pour dire quelque chose de général, là. Est-ce que tu es fidèle dans tes offrandes et tes dîmes? Et moi, je sais que je ne dîme pas, je ne donne jamais des offrandes. Est-ce que j'ai l'autorité? Je vais parler hypocritement. Là. Mais moi, je dois, paroles ont l'autorité de la part de Dieu, parce que n'oublions pas qu'on est toujours devant Dieu. Et le Saint-Esprit est avec nous, et le Saint-Esprit va agir en conséquence de ma droiture, de la façon dont j'ai agi d'une façon honnête, intègre. Et il va appuyer mes paroles avec les actes, juste pour dire quelque chose, parce que quelque chose de moi de simple, non? De donner mes offrandes, de donner mes dîmes, pour moi ce sont les rudiments de l'Évangile. Si un chrétien n'a pas appris à donner sa dîme, à être fidèle avec les offrandes, je crois que c'est un chrétien qui a de vrais problèmes. Ce sont les choses de base, mes frères. Hein? Ce sont les choses rudimentaires de l'Évangile. Après ça, ça vient les choses plus sérieuses. Hein? Alors, c'est pour ça que je mets les dîmes, les offrandes comme exemple. La langue, la façon dont je parle, montre aussi la fermeté de notre foi. Mais si nous voyons les versets 5 et 6... Toujours Jacques, on revient à Jacques. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Peut-être l'étincelle est le meilleur moyen pour démontrer cette action. Nous produisons l'étincelle et Satan se charge de propager le feu. Pas seulement Satan, parfois aussi mes frères ou ceux qui m'écoutent se chargent de propager le feu. Il faut faire attention. Je suis encore, quand on parle, quand on fait référence souvent, parlant toujours de la mauvaise façon et comment on maîtrise la langue, comment est-ce qu'on va faire, on va s'exprimer d'un frère, d'une soeur par exemple, comment on va s'exprimer des leaders de l'Église, du pasteur parfois, et surtout, voyez-vous, quand j'ai un problème avec un soeur, un frère, soit parce que mon frère a péché, il a fait quelque chose qui m'a offensé, la première chose, qui a la responsabilité, c'est moi. Hein? Ce n'est pas l'offensant. Et Dieu met la responsabilité sur l'offensé, pas sur l'offensant. Parce que c'est ça que Matthieu dit. C'est que si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le, étends-toi et lui seul. Hein? Ce n'est pas ton frère qui a péché contre toi qui vient, qui a la responsabilité première de venir. Mais c'est toi qui as été offensé, qui as la responsabilité première pour venir lui parler. Lui, il a une responsabilité, bien sûr, parce que si je me rends compte que j'ai offensé Richard, je dois venir lui demander pardon à Richard. Lui, c'est le premier visé par la parole de Dieu. C'est lui qui doit venir en premier me dire, moi, mon frère, tu m'as offensé. Pour une telle raison, oui.
Il y a une bonne raison en arrière de ça aussi, que des fois, nous, on ne sait pas qu'on a offensé à personne. Ça m'est déjà arrivé. Un frère que j'aime énormément, puis ça a produit pendant peut-être quelques semaines une difficulté, il va parler. Mais lui, la parole qu'il a reçue, il n'a pas la même prévision. Et il était très blessé. Puis il nous voit. Oh, on a discuté. Ah, OK. Ah, oh, ça a été...
C'est éclairé les choses, puis...
Parfait, maintenant. Mais ça nous a même renforcé dans notre amitié. Mais nous, on ne sait pas qu'on offense à personne des fois.
C'est ça. Gloire à Dieu parce que le frère a eu le caractère de venir te parler. Et vous savez quoi? Nous, c'est plus complexe. Hein? Quand je parle nous, notre Église, parce qu'on est multiculturel. Et il y a des cultures dont la façon d'agir des Québécois, mais qui n'est pas la pratique d'une autre culture. Pour les Latino-Américains, par exemple. Et ça se pourrait que pour les Québécois, c'est quelque chose de naturel. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va, waouh, qui me choque. Alors, voyez-vous comment parfois des petites choses, Satan aussi profite pour mettre la division dans l'Église. Alors, c'est pour ça que nous sommes interpellés plus directement, je le sens comme ça, dans notre Église, à faire attention. Beaucoup plus d'attention. On est, comme j'ai parlé l'autre fois, on a compté qu'il y avait dans l'Église 37 différentes nationalités. Imaginez-vous. 37. Même dans les pays de l'Amérique latine. Je parle de l'Amérique latine parce que je suis latino-américain. Regardez, l'Amérique centrale est tellement petite. Et mon pays d'origine, c'est le plus petit pays d'Amérique. Et par rapport au Guatemala, on a déjà des différences. Ma femme est guatémaltèque. On a déjà des différences que quand on s'est marié avec elle, on a dû corriger des choses parce qu'elle disait des expressions que pour les Guatémaltèques sont normales. Et pour moi, c'était choquant. Et une fois, elle a dit une expression. Et moi, waouh, pourquoi tu dis ça? Quoi? Tel mot, parce que pour nous, les Salvadoriens, c'est très dur, très vulgaire. Mais pour les Guatémaltèques, il n'y a rien. C'est normal, voyez-vous. Je parle de l'Amérique centrale, des peuples, des pays latino-américains qui sont pas mal similaires. Imaginez-vous si je parle avec de la différence que peut avoir entre moi et un Indien, par exemple, un Hindou. Vous savez que j'aime beaucoup les Africains, mais on peut avoir des différences entre les frères, parce que la culture est différente. Pas nécessairement parce qu'il veut m'offenser ou que je veux l'offenser, mais on est différent, il faut faire attention. L'amour, c'est la chose qui doit prévaloir dans tous les sens. Hein. Ce n'est pas la culture, dit en passant. Ce qui doit nous diriger, c'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est sur toute chose, y compris la culture. Alors c'est elle qui nous dirige, c'est elle qui nous donne les paramètres de comment agir dans l'Église chrétienne. Si j'agis dans l'Église chrétienne selon les paramètres, selon les principes bibliques, on est bien. On est bien. Même la culture doit s'adapter à ces choses-là. Et Jésus-Christ, parlant de, quand on parle toujours, l'appel de Jacques commence faisant un point d'attention sur l'enseignement de la parole. Parce qu'il dit, si vous voulez enseigner, faites attention parce que vous êtes jugé plus sévèrement. La question, c'est plutôt l'interaction. La langue, Jacques veut mettre l'emphase sur comment est-ce qu'on agit, de quelle façon on parle entre frères et sœurs. Hein. C'est ça l'emphase qu'il met. Alors, comment est-ce que Jésus-Christ a pris ce sujet-là? Dans Matthieu 5, 22, qu'est-ce que le Seigneur dit?
Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mériterait d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne.
C'est très sérieux. Hein? Le Seigneur Jésus, il ne prend pas ça à la légère. Le fait d'offenser un frère à une sœur, selon le point de vue de Jésus-Christ. Et il mérite même, quoi? L'enfer. C'est ça qu'il est en train de dire Jésus-Christ. Et nous, on le prend à la légère. On peut offenser n'importe qui, puis c'est comme si rien n'était. Il faut faire attention. Jésus-Christ, il prend ça comme très sérieux. Il dit que celui qui dit insensé à son frère, il mérite la géhenne. La géhenne, vous savez c'est quoi, là? C'était une place spécifique d'Israël, ailleurs de Jérusalem. Auparavant, jadis, les peuples païens et même Israël avaient déjà pratiqué de brûler, d'offrir des enfants en sacrifice dans cette place-là. Après, il est devenu comme un dépotoir, mais il faisait à un moment donné, dans l'Ancien Testament, Jérémie, je crois, il raconte comment il venait pour sacrifier aux idoles des enfants, les brûler, littéralement, dans ces places-là. C'est pour ça que quand il fait attention, on l'appelait la géhenne à ces places-là, parce qu'il y avait toujours le feu. C'était le feu constamment, parce qu'il y avait des déchets toujours là qui brûlaient. Mais auparavant, je vous répète, a été servi comme un lieu de sacrifice d'enfants pour la pratique des peuples païens. Et parfois même Israël a tombé dans cette pratique méchante. Alors Jésus-Christ dit, si quelqu'un parle contre son frère, il est paisible, il mérite d'aller en enfer. Alors prenons ça comme quelque chose de très sérieux, mon frère, mes frères. Et pour finir, la langue démontre la qualité du cœur. Si on revient à Jacques 1, 26, il dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Nous ne sommes qu'en train de pratiquer quelque chose que nous pensons c'est le christianisme, mais ce n'est pas du tout le christianisme. Le Seigneur veut que nous soyons conséquents à ce que nous faisons et que nous soyons pratiques dans l'aspect spirituel et dans la pratique de l'amour envers mes frères et sœurs, que je dois être contrôlé. Le Seigneur dit, 2 Timothée 1, 7, qu'il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse pour que nous soyons contrôlés.